Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'ombre du protoxyde d'azote plane sur le drame d'Alès. Plusieurs bouteilles ont été retrouvées dans la voiture qui a terminé sa course dans une piscine et dans laquelle trois jeunes se sont noyés. Un an de prison avec sursis pour le jeune homme qui a profané la tombe de Robert Badinter le jour de sa panthéonisation. Et puis quel avenir pour nos églises? Les communes sont nombreuses à ne pas avoir les moyens de les restaurer. C'est l'enquête de la rédaction ce matin.
Le protoxyde d'azote est-il à l'origine d'un nouveau drame sur la route?
C'est toute la question après le terrible accident survenu à Alès dans le Gard dans la nuit de mardi à mercredi. La sortie de route sous une pluie battante d'un véhicule qui a terminé sa course dans la piscine d'une maison provoquant la noyade de trois jeunes passagers âgés de 14, 15 et 19 ans. Anna Jojard, vous êtes sur place en direct pour RMC ce matin. Ce qu'on sait, c'est que des bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans la voiture. Mais on n'a pour l'heure aucune certitude sur les circonstances de ce drame.
Oui, il faut attendre les résultats des analyses sanguines et des autopsies pour savoir si les occupants ont bel et bien consommé du protoxyde d'azote avant cet accident. Ce qu'on sait, c'est que parmi les quatre bouteilles de gaz hilarant retrouvées dans la voiture, plusieurs étaient vides, hein, mais ce n'est pas la seule piste étudiée par les enquêteurs, car des bouteilles d'alcool vides et de la résine de cannabis ont également été retrouvées dans le véhicule, selon nos confrères de BFM TV. Hier soir, le procureur d'Alès évoquait un accident dû à une accumulation de facteurs, la pluie, la vitesse et peut-être aussi l'inconscience de ces trois victimes très jeunes, hein, puisqu'à l'avant de la voiture se trouvaient un adolescent de 14 ans et un jeune de 19 ans, tous les deux originaires de la commune, et à l'arrière, un jeune de 15 ans qui résiderait lui à Nevers dans la Nièvre et qui était connu des services de police. Il avait été interpellé le week-end dernier sur un point de deal à Alès.
Anna Jojard, envoyée spéciale d'RMC à Alès dans le Gard.
Et ne manquez pas dans 20 minutes la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Il faut arrêter avec l'hypocrisie sur le protoxyde d'azote, dit-elle. En France, on est nul avec la drogue et elle l'explique donc à 7h50.
La France appelle à la libération de Christophe Glaise après la confirmation hier en appel de la peine de 7 ans de prison dont a écopé le journaliste français détenu en Algérie depuis le mois de juin pour apologie du terrorisme, alors qu'il s'était rendu sur place pour un reportage. Il a désormais une semaine pour se pourvoir en cassation. La France qui cherche aussi le soutien de la Chine pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Pékin a une capacité déterminante à œuvrer dans ce dossier. Voilà ce qu'a dit ce matin Emmanuel Macron à son homologue chinois au début de sa visite d'État de 3 jours.
7h32 sur RMC. La sanction est tombée pour celui qui a profané la tombe de Robert Badinter le jour de sa panthéonisation.
L'homme de 23 ans a été condamné à 1 an de prison avec sursis, une peine assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général. Et on peut dire qu'il a eu bien du mal à expliquer son geste au cours de l'audience, Pierre Bazin.
Dans le box, le jeune homme de 23 ans, étudiant ingénieur aux mines de Paris, apparaît l'air déconfit, tête basse, tel un enfant face au président du tribunal qui lui fait la leçon. Pourquoi a-t-il profané la sépulture de Robert Badinter? Je ne me faisais pas l'idée que des gens admirent ce qu'il a fait, avance l'étudiant qui avait minutieusement préparé son geste. Le jeune homme bafouille, multiplie les références à Jean-Marie Le Pen, à Louis XVI, sous les yeux de Fanny Ginsburg, son avocate.
Il y a du royalisme dans sa bouche, du légitimisme, il y a quand même énormément de confusion. Je pense qu'il y a beaucoup de raccourcis aussi. Vous voyez même les bases de l'opposition entre République et royauté. C'est des notions qu'il ne maîtrise manifestement pas, en tous les cas qu'il n'a pas maîtrisé dans le cadre de cette procédure.
Face à des justifications balbutiantes, le procureur pointe le trou noir de la pensée dans le box. Il y avait le débat qui élève la liberté, le courage de Robert Badinter. En face, il y a la lâcheté de celui qui revendique de manière anonyme, conclut le magistrat.
Restaurer ou détruire, c'est le dilemme auquel font face bon nombre de maires en France lorsque leurs églises tombent en ruine. C'est le choix de la rédaction ce matin. Célestin Bougère, vous avez enquêté pour RMC et on peut le dire, les communes sont à l'os et notre patrimoine est du coup menacé.
Ah oui, par exemple dans la commune de Quelaine-Saint-Gaud en Mayenne, un village de 2000 habitants. Une des deux églises ne sert plus depuis 20 ans. Pas de messe, pas de cérémonie. Elle est laissée à l'abandon, si bien qu'elle menace aujourd'hui de s'effondrer. Le maire, Laurent Lefebvre, m'emmène devant cette petite église du 19e siècle, sur la façade des dizaines de fissures, des bouts de murs qui se sont décrochés. Le conseil municipal vient de voter la destruction de l'église.
On voit l'enduit qui tombe, les murs prennent l'eau et quand on est à l'intérieur, même, on voit le ciel, il y a des trous. Là, on arrive à la partie qui s'est écroulée il y a pratiquement 2 ans maintenant, ça ne va pas passer l'hiver. On arrive à 600 000 euros de travaux. C'était simplement la sécuriser. On met 600 000 euros dans un bâtiment qui sera inutilisé. Ben non, c'est pas possible pour nous. Sinon, on augmente les impôts. C'est pas ce que la population colonnaise me demande, en tout cas.
Ce dilemme, beaucoup d'autres villages y font face. C'est le cas à La Roche-Jodie, dans les Côtes-d'Armor. Le maire a commandé des devis. Rénover l'église coûterait plus d'un million d'euros. La détruire, seulement 250 000 euros. Mais le maire Jean-Louis Évin assure qu'il ne détruira pas l'église Saint-Maudé.
Si on compare les deux, ça affole, mais c'est impossible de le faire comme ça. Et puis ce serait bien dommage. On voudrait qu'il soit bien plus fréquenté et accessible à tout le monde, parce qu'elle a un intérêt patrimonial. Et si en plus on y ajoute un intérêt culturel, je pense que ce sera plus facile d'aller chercher des aides. Et en même temps, elle serait plus fréquentée et ça n'empêcherait en rien d'avoir un culte occasionnel, puisqu'il reste occasionnel.
Pour aider les communes rurales, les dons aux églises sont déductibles d'impôts à hauteur de 75%. Un dispositif spécial lancé par l'État il y a 2 ans. Alors que la situation inquiète toujours, ce dispositif prend fin dans moins d'un mois, le 31 décembre prochain.
L'enquête de Célestin Bougère pour RMC. Il est 7h36 à Nice. La crise se poursuit après les échauffourées entre joueurs et supporters dimanche soir. Hier, l'ensemble du vestiaire a pris la parole dans un communiqué commun. Une façon de montrer leur unité, Maxime Tilliette.
Oui, les Niçois ont repris l'entraînement hier après environ 3 heures de discussion avec le staff et les dirigeants du club. Un moyen d'exorciser les récents événements et se mettre d'accord sur l'écriture d'un communiqué publié dans la soirée. Les joueurs pointent du doigt les manquements de l'OGC Nice et des autorités en termes de sécurité. Selon eux, les services de police auraient dû procéder à la dispersion des supporters en voyant la présence d'un grand nombre d'individus cagoulés sur la voie publique. Ils confirment les agressions physiques qui expliquent d'ailleurs la mise en arrêt de 2 de leurs coéquipiers et exige désormais une enquête approfondie. Les joueurs regrettent également le peu de soutien moral de la part de leur direction. Une prise de parole qui met en lumière l'union qui règne dans le vestiaire niçois après les 6 défaites de rang et le récent affrontement avec les supporters.
Et puis le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Cobra Killer Gare. L'outsider, c'est le 12, Global Dub.
C'était le journal d'Élise Dangean.